France Inter.
Hello.
Hello.
It's Paul McCartney.
I mean, I'm in awe of McCartney. He's got the gift for melody. He's got the rhythm. He can play any instrument.
Okay, thanks a lot,
Mr. Paul McCartney.
I just like writing songs. It's a hobby, almost, you know.
Right, how you feeling? Good?
Do you have any idea of how many songs you wrote?
I never counted.
Yes, all right. And here we go.
Aujourd'hui est arrivé le moment d'éclairer la face ouvertement rétro de notre héros. Paul McCartney, elle n'est pas négligeable au sein des Beatles, ni bien sûr après. Ce sera aussi l'occasion d'éclairer ses toutes premières sources musicales.
When I get older, losing my head, many from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
En plein milieu du grand album psychédélique des Beatles, le fameux Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, paru en mai 1967, juste après une chanson indianisante signée George Harrison et un rock bizarre qui faisait un peu penser aux Doors qui venaient de publier leur premier album, eh bien, il y avait ça, When I'm 64, quand j'aurai 64 ans. Une chanson rétro au style parodique qui décrivait sur un ton loufoque le quotidien imaginaire d'un couple de retraités d'autrefois. Une chanson dans le style des années 30 qu'aurait pu chanter Fred Astaire. Un des premiers airs encore sans parole que Paul McCartney avait trouvé vers l'âge de 15 ans sur le piano droit du salon familial du 20 Fourth Lane Road à Liverpool. L'instrument sur lequel jouait son père, Jim, un musicien amateur. Jim avait transmis à son fils Paul son amour de la musique. Né en 1902, Jim animait, en veste de smoking, son propre Jim Max Jazz Band. Et après s'être ruiné les dents en jouant de la trompette, il ne jouait plus que du piano. Et lors des fêtes de famille, bien sûr, tout le monde chantait. Les McCartney descendaient de cette importante communauté irlandaise qui était venue chercher du travail à Liverpool. Liverpool, une ville qui, au tournant des 18e et 19e siècles, avait été le plus important port marchand de Grande-Bretagne. Mais cette période florissante n'était plus qu'un souvenir, surtout après la grande dépression économique des années 1930, dont la ville, au fond, ne s'est jamais remise. Une dépression qui fut à la source une émigration massive des Irlandais de Liverpool vers les États-Unis. Le Liverpool dans lequel est né Paul McCartney le 18 juin 1942 à l'hôpital de Walton dans le nord de la ville a néanmoins subi d'autres maux bien plus profonds qui expliquent sans doute cet élan exceptionnel, cette vitalité folle propre à la jeunesse et à la musique de cette ville. Imaginez, entre le 17 août 1940 et le 10 janvier 1942, Liverpool a subi pas moins de 68 bombardements, sans compter les alertes, 10 fois plus nombreuses. Paul, enfant, grandit dans une ville en ruine, dévastée. 10 000 maisons ont été détruites, totalement ou en partie. Quantité de familles se sont retrouvées sans logement. Il a fallu reconstruire, et vite. On a construit en lisière de Liverpool de nouvelles maisons, des immeubles en briques de 4 étages. C'est dans ce décor que Paul et son jeune frère Mike ont grandi. Comme le raconte Paul dans le livre que lui a consacré son ami Barry Miles, Many Years From Now, je le cite, « Il manquait aux gens, dit-il, la vie de la rue, le pub du coin, les petits magasins et le sens de la communauté. » Pour les jeunes banlieusards de Liverpool qui grandissaient comme Paul dans un ghetto ouvrier, il n'y avait alors strictement rien. Et c'est quand il n'y a rien, rien à quoi s'intégrer, rien à quoi se comparer, rien à envier, qu'on peut peut-être le plus rêver. Son père avait quitté l'école à 14 ans. Cet homme, plutôt conservateur et résigné, exerçait un emploi modeste de représentant de commerce lié à la bourse du coton. Son évasion, hormis la musique, c'était les mots croisés et pour s'instruire, l'encyclopédie qu'il s'était offerte à crédit. Il rêvait de voir Paul ingénieur. Quant à sa mère, Mary, la Mother Mary de Let It Be, une infirmière qui était devenue sage-femme à domicile, eh bien, elle avait plus d'ambition encore. Elle imaginait Paul médecin. Cette femme affectueuse, chaleureuse, qui parcourait les rues de Liverpool à vélo, dans son uniforme bleu nuit, l'encourageait à apprendre, à mieux parler, elle corrigeait même son accent. Sa mort, survenue en 1956, consécutive à un cancer du sein qu'elle n'avait pas soigné, ni même déclaré dans ces milieux où on serrait les dents et on ne se plaignait de rien, est le premier malheur à avoir frappé Paul, qui n'avait que 14 ans. Une épreuve qui allait le rapprocher de John Lennon, rencontré l'année suivante en 57, lequel allait lui aussi bientôt perdre sa mère, une mère d'autant plus admirée qu'elle avait été, hélas pour lui, le plus souvent absente. Song that was a
that road before. It always leads me here, lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for the day. Why leave me standing here? Let me know.
Too many notes.
Yeah, all right. Well, it just gets
too sort of regular.
France Inter.
RTBF La Première.
What you're doing?
Mishka Sayas. Very good trip. Paul McCartney.
The Long and Winding Road, cette route longue et sinueuse, ce fut le dernier numéro 1 des Beatles aux États-Unis en mai 1970, soit un mois après l'annonce de la séparation du groupe par Paul McCartney lui-même. Dans les faits, le groupe n'existait plus depuis longtemps déjà. Des mois auparavant, John Lennon avait clairement informé Paul et les autres que pour lui, les Beatles étaient finis, mais d'un commun accord, la nouvelle n'avait pas filtré. L'album Let It Be, dont la chanson était tirée, paru en même temps, était le rafistolage d'un album enregistré avant Abbey Road et laissé en plan et qui aurait dû s'appeler Get Back. On en a beaucoup parlé à l'occasion de la sortie à la fin de l'année 2021 du documentaire du même nom, Get Back, assemblé à partir d'images inédites par le cinéaste Peter Jackson. Lennon et Harrison avaient confié au fameux réalisateur artistique new-yorkais Phil Spector, à la réputation tyrannique, la mission de livrer un produit fini en reprenant ce chantier abandonné. Ce que Spector fit à sa façon, une façon qui, concernant The Long and Winding Road, est longtemps restée en travers de la gorge de Paul McCartney et même carrément un casus belli avec les autres. Prenez la version la plus connue et non celle qu'on vient d'entendre de The Long and Winding Road. On entend une puissante orchestration symphonique et d'envahissant chœur wagnérien, bien de la manière flamboyante de Spector. Sauf que ce n'était pas du tout le désir de Paul McCartney qui s'est étranglé en entendant le résultat et qui a mis un point d'honneur à restaurer l'enregistrement de sa chanson, d'où sa revanche tardive 33 ans plus tard en 2003, quand Paul McCartney a enfin obtenu de publier sa propre version de l'album Let It Be sous le titre de Let It Be Naked. Dans la page qu'il consacre à The Long and Winding Road, dans son beau livre empli d'illustrations et de manuscrits, paroles et souvenirs de 1956 à aujourd'hui, Paul McCartney donne une clé. « Quand j'écris une chanson, écrit McCartney, j'utilise souvent un truc de prestidigitateur. Par exemple, j'imagine que la chanson est écrite par quelqu'un d'autre, en l'occurrence Ray Charles. Comme souvent, j'avais envie d'écrire n'importe quel genre de chanson, sauf du McCartney. » C'est une bonne stratégie pour rester créatif. On peut toujours, conclut-il, invoquer quelqu'un d'autre que soi-même. Et il ajoute ceci. Quand on écrit, on peut enfiler un masque et une cape. Ça permet de lever toute inquiétude. Ça vous libère. On finit par se rendre compte que ce n'est pas une chanson de Ray Charles, mais la vôtre. La chanson a trouvé sa vie propre. C'est sans doute un des secrets de fabrication les plus intéressants que nous est livré Paul McCartney. Enfin, c'est plus tout à fait un secret, hein, puisqu'il le divulgue. Et c'est à rapprocher au fond de l'ambition première qui avait été celle de John Lennon et Paul McCartney quand ils s'étaient rencontrés. Bien sûr, le rock'n'roll avec Bill Haley, Chuck Berry, Eddie Cochran, Buddy Holly, le préféré de Paul et Elvis, bien sûr. Mais leur ambition première à ces deux-là, avant même les Beatles, était d'écrire des chansons pour les autres, dans des styles aussi différents que possible, et de les vendre. Et pour ça, il fallait déjà se glisser dans la tête et la peau d'autres interprètes aussi divers que possible. Sans doute faut-il voir là une des clés du succès universel des Beatles, qui n'ont jamais rien exclu de leur horizon musical et sont ainsi adressés à tout le monde. Ils ont fait cohabiter le rétro et l'avant-gardiste, le ringard et l'expérimental, la comptine pour enfants et le cri sauvage du blues. Non seulement ils accueillaient tout, mais aussi ils mélangeaient tout. Et le pas sérieux et le sérieux se sont toujours comme emmêlés chez eux jusqu'à un certain point d'envoûtement qu'aucun autre groupe peut-être n'a jamais atteint. Jim McCartney, le père, avait souhaité que Paul prenne des leçons de piano. Ça n'a pas pris. Le garçon a toujours refusé de se discipliner. Jim l'emmenait régulièrement écouter la fanfare, il est arrivé quand même à l'initier à l'harmonie, et il lui a même offert une trompette que Paul a néanmoins vite revendue pour s'acheter sa première guitare. Et il l'emmenait régulièrement écouter la fanfare.
Ouais. Il y a deux ans, dans une interview au Nouvel Observateur, vous disiez que vous ne saviez pas écrire la musique, que vous aviez même du mal à lire, et qu'on vous présenterait une partition de Yesterday, vous la reconnaîtriez par les paroles, mais pas par l'écriture. Ça paraît incroyable, ça. C'est vrai ?
Yeah, that is true.
Oui, c'est vrai. Quand j'étais petit, j'ai suivi des cours de musique comme tout le monde. C'était une dame âgée qui était très patiente et qui me chantait comme ça. Et j'essayais de comprendre et d'aimer cela, mais je n'y arrivais pas parce qu'elle m'a enlevé tout le plaisir de la musique. Donc, puis après, j'ai écouté la radio, j'écoutais mon père jouer et ça me plaisait. Mais à chaque fois qu'il fallait étudier, travailler, il y avait une espèce de dyslexie musicale qui s'installait. Je ne pouvais pas associer cela à la joie. En fait, Yesterday, que vous mentionniez tout à l'heure, je l'ai rêvé, Yesterday. Je n'ai pas pu l'écrire, mais je l'ai rêvé. Pour moi, ça me suffit.
C'est ce que déclarait Paul McCartney à la télévision française en 1993. Voici à présent Bluebird, une chanson signée Wings, en 73, 3 ans après la fin des Beatles. Une chanson dans laquelle Paul McCartney s'est imaginé brésilien, peut-être Caetano Veloso, un masque qui lui allait très bien, comme à peu près tous les autres.
Late at night, when the wind is still, I'll come flying through your door. I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. Touch your lips with
a bluebird, you're a bluebird, you're a bluebird. Yeah, yeah, yeah. Bluebird.
Encore un exemple de ce style rétro pour lequel Paul McCartney a toujours conservé une tendresse. You Gave Me The Answer, une chanson qu'il a signée avec le groupe Wings en 1975 et qu'on peut entendre dans l'album Venus and Mars. Une chanson sûrement au goût de son père Jim, auquel tristement il ne resterait plus beaucoup de temps à vivre. Paul lui avait fait un très beau cadeau en reprenant, pour clore l'album en question, un air instrumental que Jim McCartney jouait avec son orchestre, le seul de sa composition, Walking in the Park with Eloise. Alors on trouve régulièrement chez Paul McCartney ces orchestrations de clarinette, hein, comme dans When I'm 64, ou de fanfare en général, qui lui viennent de son enfance et en particulier de son père. Quelques mots sur la chanson qu'on s'apprête à entendre, Let Em In, elle aussi dérivée en droite ligne des souvenirs de fanfare de Paul McCartney. Elle servait d'entrée en matière un album enregistré par Wings à Abbey Road à Londres, alors que la tournée triomphale du groupe dans le monde en 75 et 76 faisait une pause. Paul n'avait pas une grande estime pour cette chanson, une simple énumération de noms propres. Qui voilà qui vient sonner à la porte et des noms lui traversent la tête. Sister Susie, bah c'est Linda, puisque quand Paul et Linda étaient en Jamaïque, tout le monde l'appelait Susie, parce que pour les Noirs jamaïcains, une femme blanche, c'est une Susie. Voilà. Il y avait aussi Brother John, peut-être Lennon, peut-être John Eastman, le frère de Linda, Auntie Jean, hein, sa tante Jane, que tout le monde appelait Jane, et puis aussi des personnages qui ont compté pour McCartney, comme Martin Luther, évidemment Martin Luther King, ou encore Brother Michael, peut-être Michael Jackson, qui avait encore que 17 ans, et que Paul venait de rencontrer avec ses frères, les Jacksons. Bon, Paul écrit à propos de cette chanson qu'il n'en est pas très fier, que c'est parti de trois fois rien, et que c'est, pour le citer, un truc à deux sous. Cela dit, la différence entre Paul McCartney et d'autres, peut-être plus exigeants ou simplement plus inhibés, c'est que même quand c'est trois fois rien, lui, bah, il insiste, il tire le fil, même si ce fil rapporte un peu n'importe quoi. Il arrive, écrit-il à propos de cette chanson, Let Em In, laissez-les rentrer, que des chansons surgissent d'un endroit mystérieux. La plupart du temps, poursuit-il, si on a de la chance, les mots et la musique viennent en même temps. On s'installe pour composer et on démarre. On essaye différentes choses et au bout d'un certain temps, on entend une petite phrase qui commence à fonctionner. Alors, on suit cette piste. Les artistes semblent savoir instinctivement que s'ils sont réceptifs et jouent suffisamment avec ce petit amas de mots ou de notes, quelque chose en sortira, quelque chose entrera tout seul. On n'a même pas besoin de le laisser entrer.
France Inter,
RTBF La Première,
Mishka Assayas, Very Good Trip, Paul McCartney.
ringing the bell. Do me a favor, open the door and let him in.
When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest, just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started. Now the birds have all flown from our nest, but you could bring back memories departed by playing my baby's request. My baby said that she knows how it goes, but you're the one that really knows. So you're the one that really knows. So go ahead, just one more time and then we'll go to bed. When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest, just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. Play me my baby's request. Please play me my baby's request. One more time.
Baby's Request, une chanson que Paul McCartney avait écrite à l'origine pour un quatuor vocal noir américain des années 30, les Mills Brothers, des frères comme leur nom l'indique. Il se trouvait en vacances dans le sud de la France à la fin des années 70 et par hasard, il avait entendu ces Mills Brothers, qui étaient toujours fringants, chanter dans une boîte locale. Ce qui lui avait donné l'envie d'écrire une chanson spécialement à leur destination dans un de ces styles rétro qu'il a toujours affectionné. De retour à Londres, Paul a enregistré avec son camarade de Wings, Danny Lane, au piano, la maquette d'une chanson dans laquelle on entend ce son très daté hein, de synthétiseur imitant un trombone, on était en 78-79. Et puis alors, il y a eu un peu un micmac. Le manager des Mills Brothers a pensé que Paul McCartney allait payer son groupe pour que celui-ci interprète sa chanson, ce qui n'était pas du tout l'intention du compositeur, qui souhaitait simplement offrir cette chanson au groupe. Ce qui fait que la maquette a fini par atterrir sur un album sorti en 79, Back to the Egg, le dernier signé par Wings, une chanson que personne ou presque n'a remarquée. Cette année-là, Paul McCartney et Wings ont eu un tube inattendu, Goodnight Tonight, là encore, une de ces hybridations aussi libres qu'incongrues qui caractérisent bien la manière de Paul McCartney. Une excellente ligne de basse bondissante d'abord, une ligne de basse funky, irrésistiblement dansante, trouvée par McCartney. Il y a aussi dans Goodnight Tonight des roulements et étincelles de guitare flamenco, des percussions latines, une ambiance reggae dub brièvement qui intervient aussi un moment, un effet de voix déformé au vocoder, Kraftwerk est passé par là. Et dans la vidéo, McCartney et les autres musiciens de Wings portent des smokings des années 30 et Linda, une robe de soirée. C'est franchement n'importe quoi, mais ça marche. La chanson était à la fois rétro et moderne avec un petit quelque chose de malicieux et de loufoque, comme toujours chez Paul McCartney, au fond.
Say anything, don't say goodnight tonight. Don't say it, don't say it. much it meant to me. You'd understand, and I would feel your love was true. This is all I want. This is all I need. This is all I long for. I do. Just remember this, after a time, it's true, and nevermore will there be days for me and you.
I Do, une chanson signée Paul McCartney qui n'a guère été remarquée et qui figurait dans un album qui ne l'a pas davantage été, Driving Rain, sorti en 2001. Le premier album de chansons originales signé par Paul McCartney après la mort de sa femme Linda, complice, collaboratrice, libératrice, comme il l'a dit. Une des chansons peut-être les plus poignantes qu'il ait jamais écrites, je la cite, « Rappelle-toi ceci, au bout d'un moment c'est fini, et plus jamais » il n'y aura de jour comme ceux-là pour nous. C'est tout ce que je veux, tout ce qu'il me faut. Ma chérie, rappelle-toi que oui, je t'aime. Difficile, diront certains, de faire des paroles plus simples ou plus niaises, hein, diront les ricaneurs, peut-être. Mais quand on est démuni, quand on a perdu la personne qu'on chérissait le plus au monde et que les mots vous manquent, eh bien ce sont les plus nus, les plus bêtes qui vous comblent. En 2012, Paul McCartney, à 70 ans, a signé un de ses albums les plus mal accueillis, Kisses on the Bottom, un album composé presque exclusivement de reprises d'airs populaires américains des années 20, 30 et 40, ceux que chantait son père au piano à la maison. Des chansons de comédie musicale, mais pas seulement, il y a cependant une chanson nouvelle, inédite dans cet album, My Valentine, composée dans un style rétro, mais cette fois sans double fond, sans ironie, sans loufoquerie. Dans son livre décidément passionnant, Paroles et souvenirs de 1956 à aujourd'hui, Paul raconte comment elle est née. Il était parti en vacances avec son frère et celle qui allait devenir sa troisième femme, Nancy, mais ces deux-là ne s'étaient pas encore complètement rapprochés et dormaient dans deux chambres séparées, surtout, précise Paul, que les paparazzi rôdaient. Pendant ses vacances au Maroc, il a plu des cordes du matin au soir. Et dans l'hôtel, il y avait un piano auquel s'installait, se souvient Paul, un militaire irlandais à la retraite, qui lui a rappelé fortement son père. Paul sentait qu'il tombait amoureux de Nancy, que c'était fatal et qu'il n'y pouvait rien. Et c'est comme ça que My Valentine, la seule chanson originale de Kisses on the Bottom, lui est venue. Comme il avait peur de l'oublier, eh bien il s'est filmé avec une petite caméra vidéo handicam posée dessus. Et Paul McCartney a eu raison, ça aurait été franchement dommage de perdre ça.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine.
C'est avec cette très belle chanson tardive de Paul McCartney, My Valentine, qu'on a découverte en 2012, qu'on se quitte pour aujourd'hui. Le prochain épisode sera consacré à la veine américaine blues et country de Paul McCartney. Elle est particulièrement riche. Merci beaucoup à Josépha Lebrun qui a réalisé l'émission. C'était Jérôme Ragano à la technique. Merci également à Romain Couturier et François Merlin à la discothèque de Radio France. À la prochaine.
Let's rock. À bientôt.